Bonsoir à toutes et à tous, c'est dimanche soir, c'est l'heure du Grand Fauve. À l'affiche ce soir, mémoire d'un judoka. Let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je suis ceinture noire de judo, quatrième dan. Ceinture noire, on l'est pour la vie. Mais ma vie m'a conduit ailleurs, vers l'Institut Lumière de Lyon et vers le Festival de Cannes. Les tapis que je fréquente désormais sont rouges et mènent à d'autres sanctuaires.
La voix et les mots de Thierry Frémaux, jeune sexagénaire, il se souvient de sa vie de judoka dans un récit à vif où se mêle l'histoire du judo, ses souvenirs à lui sur le tatami et parfois ses incertitudes face au présent. Thierry Frémaux appartient à une génération qui n'a connu ni la guerre ni le chômage, à la fois trop jeune pour mai 68 et trop vieux pour danser sur TikTok. Reste qu'il a au cœur un trésor, la décennie 70, celle où sa vie a débuté, celle où il puise encore sa force en cinéma et en judo. Délégué général du Festival de Cannes, directeur de l'Institut Lumière à Lyon, cinéphile de haute volée, passionné de sport et donc ceinture noire de judo 4e dan, Thierry Frémaux, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu. Nous allons passer une heure ensemble à naviguer dans ce grand récit publié aux éditions Stock et sobrement intitulé Judoka. Et puis avant le journal de 19h, la victoire enchantante de Pierre-Étienne Minonzio, ce soir l'hymne de l'équipe irlandaise de rugby. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. À l'affiche ce soir, un judoka à la recherche du temps perdu.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Cette semaine, on débute avec un medley d'archives de l'année 1949. Pourquoi 1949? Eh bien parce que le judo s'est implanté en France après la Seconde Guerre mondiale. La Fédération française a été créée en 1946. Et 3 ans plus tard, donc, la radio-télévision française s'intéressait à ce nouveau sport. Alors voici en 3 extraits comment la voix des ondes présentait à l'époque la voix de la souplesse.
Avoir un cœur libre, droit et pur. Avoir un cœur qui, comme de l'eau vive, se plie aux lois de la nature. Voilà l'idéal réalisé par le judo, ce sport pratiqué par beaucoup de gens, sans distinction d'âge ou de sexe, ce sport attrayant, propre à développer le corps et l'esprit aussi bien qu'à former la personnalité.
Le judo est par définition un sport d'attaque et de défense. C'est la raison pour laquelle les femmes ne dédaignent pas de s'y adonner, et le plus souvent avec un succès déconcertant pour le partenaire masculin. Car s'il est un sport chevaleresque, le judo qui insuffle la force aux plus faibles détruit le prestige du sexe fort. Et si vous éprouvez, messieurs, le besoin de vous montrer galant hors de propos, demandez d'abord à votre victime si elle n'est pas ceinture noire. Ce sera plus sage et tellement moins humiliant.
Le judo est, d'après ce qu'on chuchote à Tokyo et à Yokohama, une philosophie japonaise avant d'être un sport. Philosophie très pratique lorsque, comme dans la rue, 2 ou même 4 individus bondissent sur vous et que par un savant taiotoshi, en un tournement, version française, vous les mettez hors de combat.
Bien, laissons ce judo d'après-guerre pour celui des 70s. Voici l'histoire du dimanche soir. Ces derniers mois, l'âme empreinte d'une certaine mélancolie, Thierry Frémaux s'est lancé à la recherche du temps perdu, un temps disparu, enfoui au fond de lui-même. Point de Madame Verdurin, mais plutôt un Monsieur Verdino, entraîneur débonnaire d'une jeunesse de judo. Point d'hôtel des Guermantes, mais plutôt un dojo populo du côté de Vénissieux, en banlieue lyonnaise. Point de jeune fille en fleurs, mais plutôt l'impatience d'un jeune judoka qui rêve à demain. Point de Marcel Proust, mais plutôt un écrivain japonais qui fit la une des actualités en novembre 1970.
25 novembre 1970, midi. 1 millier de soldats, d'officiers, de civils ont reçu l'ordre de se rassembler de toute urgence. Ils doivent écouter un discours de l'écrivain Mishima Yukio. Du haut de son balcon, Mishima lance un appel à la révolte. Il faut réarmer, il faut changer la constitution imposée par les Américains et qui interdit au Japon de déclarer la guerre. Mais personne n'entend Mishima, il parle sans micro. On crie, on se moque de lui, on l'injurie. Alors, pour la dernière fois, Mishima regarde son public et crie « Vive sa majesté l'empereur !» Il disparaît. Il revient dans le bureau du général que son commando a capturé et ligoté. Il n'a pas réussi à provoquer une révolte. Il faut donc mourir. Il se fait harakiri. Son meilleur ami lui tranche la tête et se fait à son tour harakiri. Mishima avait 45 ans, son ami 25. Les autres membres du commando sont arrêtés et inculpés de participation à un suicide. Le général gardé comme otage, en équipe pour la peur et l'horreur. C'est un choc. Un choc pour tous les Japonais. Mishima était un écrivain prestigieux, plusieurs fois pressenti pour le prix Nobel. C'est un coup de folie, déclare le Premier ministre. Mais pour d'autres, pour ses étudiants par exemple, c'est la mort d'un héros.
Thierry Frémaux, au moment du suicide de Mishima, vous aviez 10 ans. Vous étiez judoka depuis un an, si je ne me trompe pas. Le Japon vous attirait comme un aimant, déjà un peu. Mais quel sens l'enfant que vous étiez a accordé, a donné à cet acte violent de Mishima en 70?
D'abord parce que j'étais judoka et que ça me distinguait de mes petits camarades. Je me sentais pas proche de Mishima, j'ignorais évidemment tout ça. C'était juste le geste du samouraï. J'ignorais qu'il était écrivain, j'ignorais qu'il était écrivain nationaliste. C'était quelqu'un qui avait l'âme japonaise absolue en lui et qui considérait que le pays, qui était un pays vaincu en 45, était un pays qui devait se redresser. Au même moment, enfin un an ou deux ans plus tard d'ailleurs, c'est là qu'on a aussi découvert les combattants qui n'avaient pas rendu les armes, les combattants japonais, qui étaient dans des îles du Pacifique.
Et de la Seconde Guerre, hein,
de la Seconde Guerre mondiale. On est dans les années 70, on est 25 ans après, et ils n'étaient pas informés que la guerre était terminée, ou plutôt ils ne voulaient pas le croire tant que on ne leur disait pas « rendez les armes ». Et ça, ça faisait quand même des êtres humains un peu différents, et tout ce que je savais du judo, tout ce que je savais de ce qu'on nous enseignait, d'une sorte de jusqu'au boutisme moral et physique, tout ça correspondait. Donc je me sentais complètement dans un monde spécial.
Alors vous avez découvert le judo en 69, vos parents déménagent de Paris à Lyon. C'est votre mère qui vous inscrit dans un club de judo à Vénissieux, si je ne dis pas de bêtises.
À Saint-Fond. À l'époque, dans le club d'EDF.
D'EDF, absolument. Là, votre père travaillait, je crois. Et du coup, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, jeune gamin, au milieu de ces jeunes enfants en kimono blanc? C'est assez particulier quand on a 10 ans, j'imagine, en 70.
69. Oui, alors c'est un sentiment très personnel et en même temps, je crois que je le décris dans le livre, tout le monde le prendra à son compte, c'est-à-dire cette espèce de fébrilité, de solitude, de sentiment un peu d'imposture. Qu'est-ce que je fais là? Les autres ont l'air très beaux, très bons. Moi, je suis nul, etc. Et puis tout à coup, il y a quelque chose de très collectif. L'apprentissage de la chute, par exemple.
Ça, c'est important. On va y revenir.
L'idée que vous avez un maître qui enseigne à un cours collectif et qui enseigne à chacun d'entre les enfants. Puis surtout une sorte de bienveillance, une sorte de volonté éducative. Et puis que il y avait quand même un cadre. Et en effet, ma mère m'inscrit au judo parce que, m'a-t-elle dit récemment d'ailleurs, j'étais un garçon un peu turbulent et un peu agité, et que ça allait me calmer. C'est ça qu'elle avait entendu dire.
Oui, ça une structure.
Et je pense vraiment, je pense que ça l'a fait. Et puis je pense aussi que c'est un sport de sagesse. On se bat beaucoup pour devenir sage. C'est pas un paradoxe.
Au départ, vous évoquez effectivement cet apprentissage de la chute. Vous dites que c'est l'art de tomber, l'art de savoir tomber. Vous dites même que la chute, ce n'est pas l'effondrement. Au judo, c'est l'avènement. Qu'est-ce que ça veut dire, Thierry Frémaux?
Ça veut dire que le judo est un sport où l'on projette son adversaire, c'est un sport de combat. Mais la première chose qu'on vous apprend, c'est de savoir tomber pour ne pas vous faire mal. Et que la chute, au sens propre et au sens métaphorique du terme, c'est-à-dire la chute comme défaite, n'est pas importante. D'abord, la défaite n'est jamais importante si vous vous êtes battu et si vous avez tout fait pour gagner. Et puis, la défaite peut être quelque chose qui vous apprend des choses. Comme une chute n'est pas un exercice secondaire. Une belle chute, ça se travaille. Et quand vous êtes débutant, évidemment, vous apprenez d'abord ça. Et la passion du geste, la passion du style, vous la gagnez déjà dans l'apprentissage de ces chutes arrière, latérale, gauche, droite, chute avant. C'est aussi ça qui m'a inculqué la passion du judo, parce que j'adorais ça, j'adorais faire des chutes.
Pour bien comprendre l'esprit du judo, Thierry, vous avez recours à une sorte de parabole, qui est une parabole réelle, une histoire, qui se passe sur un bateau. Nous sommes en janvier 1891. Jigoro Kano, qui est donc l'inventeur du judo au Japon, est venu en Europe faire un voyage. Il rentre en paquebot, évidemment, en Asie. Et sur le bateau, il y a avec lui un officier russe. Et là, il se passe une histoire intéressante qui raconte assez bien ce que c'est que l'esprit du judo. Alors allez-y, je vous laisse raconter l'histoire.
Oui, Jigoro Kano voyageait beaucoup et à l'époque on voyageait en bateau, donc on s'ennuyait un peu, il se passait plein de trucs. Et un officier russe organisait des bras de fer, organisait toute une série de concours. Et ça se savait un peu que ce petit bonhomme japonais venu de loin avait un sport sur lequel on lui posait des questions. Et le russe dit... Mais,
sport à l'époque très récent, hein, Thierry. Sport
très très récent, et il fallait vraiment qu'il soit lui en direct pour expliquer ce que c'était, pour que les gens s'imaginent un petit peu à quoi ils avaient affaire. Et le russe dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Un sport où prétendument des petits battraient des gros. Moi, monsieur, je vous bats quand je veux. Et Jigoro Kano, qui était un homme modeste et qui avait déjà passé l'âge des combats publics, alors que les écoles de judo au Japon au 19e siècle et de jujitsu s'affrontaient pour savoir laquelle était la meilleure, il avait passé l'habitude et l'heure de se battre, et il a accepté le combat, et il a battu d'abord le combattant russe au sol. Le combattant russe lui a dit « Je vais vous immobiliser, vous ne pourrez pas sortir ». Il est sorti, il s'en est sorti. Après, il a dit « Immobilisez-moi et je vous décolle comme une crêpe ». Il l'a immobilisé, il n'a rien pu faire. Et puis surtout, en combat debout, en guettant son adversaire, ses déplacements, ses déséquilibres, en profitant en effet du poids de son adversaire, il a réussi à le projeter. Il est devenu immédiatement une vedette. Ça a fait l'actualité au Japon lorsque le bateau est arrivé. Il est devenu très ami avec ce russe, parce que la légende dit que lorsqu'il l'a fait tomber, il a mis sa main sur sa tête afin qu'elle ne heurte pas le sol.
Une précaution.
Comme précaution. Et c'est ça aussi le judo. C'est un sport qui peut être extrêmement physique, et en même temps, on veille toujours à ce que tout le monde puisse être heureux physiquement.
Vous dites aussi dans le livre, pour faire continuer cette discussion, c'est vous dites, on joue au football, on joue au tennis, on joue au basket, mais on fait du judo. Est-ce que ça veut dire que d'un côté il y a un jeu et de l'autre un art ou un artisanat? C'est quoi la différence sur ce verbe de jouer ou de faire?
Oui, ça m'est venu un petit peu en écrivant. J'ai remarqué ça, qu'on fait du judo. Il y a aussi une comparaison à faire avec l'histoire du cinéma. Lumière invente le cinéma à partir d'autres écoles dont il fait la synthèse, mais dont sa façon de voir les choses rendait supérieur son cinématographe. Et là, c'est un peu pareil. Jigoro Kano a inventé le judo à partir du jujitsu.
Qui est une boxe chinoise ancestrale.
Voilà, un autre sport de combat, des samouraïs, de l'époque des samouraïs. Et il en a fait un sport. Et c'est ça aussi qui singularise très très fort le judo. Même quand vous êtes combattant, vous savez que vous êtes dans un sport qui a de la mémoire, qui a de l'histoire, qui a même, si j'ose dire, sa Bible, son Talmud, son Coran, il y a des textes de loi quasi religieux pour les combattants, et quand on se voit tous, même un judoka que vous ne connaissez pas, vous savez que vous avez la même érudition.
Thierry, quand on a 10-15 ans, dans les 70s, le judo n'est pas très populaire. À l'époque, il l'est moins qu'aujourd'hui, sans doute, mais quand même, il y a du vocabulaire japonais, comme une sorte de seconde langue maternelle, un monde à soi, des héros qui sont moins connus que Rocheteau ou Platini. Est-ce que ça donne pas le sentiment d'être à la marge, mais dans la bonne marge, d'avoir un monde à soi et comme un secret qu'on partage avec d'autres? Quand on est gamin dans les 70s.
Oui. Non, c'est intéressant parce que, en effet, quand vous faites du judo, mais il y a d'autres sports. Moi, j'avais des copains qui faisaient du hockey sur gazon.
Ah oui.
On peut quand même pas dire que le hockey sur gazon était aussi un sport extrêmement populaire. Mais à la fois, on savait que le judo n'était pas un sport populaire, et en même temps, nous étions très nombreux. Aujourd'hui encore, je crois que la Fédération Française de Judo compte, de toutes les fédérations, le plus grand nombre de licenciés. Mm-hmm. Il y a plus de licenciés en France, en judo, qu'au Japon, par exemple. Donc on était très très nombreux. Et en même temps, oui, ça m'a sans doute préparé à l'idée qu'être minoritaire, ou qu'être dans une niche, ou qu'être un peu à part, n'était pas grave.
Voire plaisant.
voire plaisant, parce qu'en effet, il y a quelque chose qui vous appartient.
Et, oui.
Et dans la cour de l'école, mes copains avaient plein de choses que j'avais aussi en commun avec eux, mais j'étais le seul à avoir le judo.
Alors dans cette décennie 70, il y a un grand champion qui va donc, vous enchaînez les ceintures d'ailleurs, vous cheminez en judo, et là il y a un judoka français qui arrive, qui va pas être n'importe qui, c'est l'automne 75.
328 judokas représentant 48 nations ont disputé à Vienne en Autriche les 9e championnats du monde de judo. Les Japonais, dont on aime à croire trop vite qu'ils sont en déclin, ont cette année encore remporté 4 médailles d'or sur 6. C'est, avouez-le, un bien joli bilan. Mais leur désir de gagner, comme à Lausanne, les 6 médailles d'or du tournoi, n'a pas été possible. Deux athlètes européens d'une qualité exceptionnelle leur ont barré la route. Le russe Nevzorov en mi-moyen et le français Jean-Luc Rouget dans la catégorie des mi-lourds. Nous allons voir comment Jean-Luc Rouget, 26 ans, est devenu le premier champion du monde de l'histoire du judo français. Il est le premier français et le troisième européen de l'histoire du judo à réussir cet exploit. C'est la récompense de 10 ans de travail et de 10 ans de souffrance.
Jean-Luc Rouget, champion du monde 75. Thierry Frémaux, est-ce que quand on a 15 ans, 75, qu'on a commencé le judo, qu'on a cheminé, qu'on a quelques ceintures déjà, est-ce que c'est une ligne d'horizon, Rouget? Est-ce que ça fait rêver de devenir champion du monde?
Oui, oui, il y avait une équipe de France très extraordinaire. Jean-Luc Rouget, Jean-Paul Coche, Patrick Vial, Jean-Jacques Mounier, ces gens qui avaient déjà gagné des médailles olympiques. Et Jean-Luc Rouget a été le premier à gagner un championnat du monde. Et en plus, quelques mois plus tôt, les championnats d'Europe avaient lieu à Lyon. Et moi, jeune judoka, déjà petite vedette locale, Je me baladais dans les travées du palais des sports de Gerland et j'avais abordé Jean-Luc Rouget, il m'avait répondu. Et c'est les mots qui comptent quand vous êtes gamin. Chaque fois, un champion qui est là, qui est à quelques minutes, quelques peut-être moins d'une heure de son combat pour la finale, me parle, me répond, fait attention à l'enfant que j'étais. Ça, c'est des trucs qui comptent vraiment. Et il avait perdu, hélas, et ça m'avait bouleversé. C'était à Lyon en mai et il gagne en octobre.
En novembre, oui.
Les championnats du monde, oui, ça comptait beaucoup. Et là aussi, vous parliez de Rocheteau, de Platini. Enfin, Platini débutait à ce moment-là. Oui, oui. C'était la grande rivalité à l'époque Marseille-Saint-Étienne. L'équipe de Lyon avait une jolie équipe, mais on tutoyait pas les premières places. Mais moi, je m'intéressais déjà beaucoup à la compétition de judo, les résultats, les champions. Un peu moins, ça m'est revenu ces dernières années tellement il y a de très très beaux champions. Évidemment, Thierry Rey, qui est de ma génération et qui, lui, très rapidement, va s'affirmer et va être champion du monde. 4 ans plus tard, il va être champion du monde à Paris en 1979, champion olympique, il a 19 ans, 20 ans, et c'était des modèles. Et de les voir aujourd'hui, je raconte dans le livre que Jean-Paul Coche, Jean-Luc Rouget, a remis son 9e dan à Jean-Paul Coche, c'était extrêmement émouvant. Et Stéphane Nomis, qui vient d'être élu président de la Fédération française judo, est un judoka. Il y a ça aussi dans le judoka, ça veut dire qu'il monte sur le tapis, tout ce dont je parle, il peut en parler à son tour, il peut parler d'égal à égal avec n'importe quel judoka, c'est une chose importante ça.
Il y a un autre personnage important dans votre parcours de judoka, Thierry Frémaux, j'ignorais totalement que Yves Klein, le plasticien, le grand peintre Yves Klein, avait été judoka et pas n'importe quel judoka. Il a fait le voyage au Japon. Il a ramené un film très court, magnifique d'ailleurs, Thierry. Vous pouvez me dire un mot du film?
Oui, oui, c'est un film de démonstration qui a été tourné au Kodokan.
Oui.
En effet, Yves Klein, qui était un homme plein d'énergie, qui hésitait encore sur cette double vocation de judoka ou de peintre, a fait ce qu'on appelle le gankeko, c'est-à-dire l'entraînement d'hiver là-bas. Et il y a un film qui en porte la trace.
On le voit lui.
On le voit lui.
Il semble être un excellent judoka quand même.
Un excellent judoka. Il a le 4e dan du Kodokan, c'est en tout cas ce que lui dit, puisqu'il publie un livre,
oui.
Un livre de méthode, un livre de kata.
Chez Grasset.
Et moi je pense que l'art d'Yves Klein, qui arrive un peu après, cet art contemporain, successeur de Duchamp, prédécesseur de Warhol, dans ses installations, dans ce mouvement, dans cet événement, vient du judo, vient du dispositif du kata, vient d'une sorte de cérémonial qui faisait de lui un artiste différent parce qu'il avait le judo. Et je ne dis pas que j'ai raison, mais ça m'amuse de penser que même Yves Klein a été influencé par le judo.
Et ce qui vous plaît, Thierry, là-dedans, c'est qu'on peut aussi, vous prenez conscience qu'on peut être judoka et intellectuel. Que tout d'un coup, Klein rend les choses compatibles dans une époque où être sportif, c'était compliqué, Thierry Frémaux.
Oui, c'était compliqué parce que le monde intellectuel n'accordait pas au sport l'importance qu'il peut avoir aujourd'hui, la preuve ici sur cette antenne.
Oui, avec vous.
Et aussi parce que j'étais un intellectuel, disons que je lisais beaucoup, j'avais de bons résultats à l'école.
Vous aimiez le cinéma déjà beaucoup.
J'aimais le cinéma déjà beaucoup. Mon vrai professeur Raymond Rodon, à qui le livre est dédié, m'avait dit « quand tu m'écris des lettres, et j'adore, elles sont spéciales ». Alors ça vous encourage aussi ça, ce genre de choses. Et puis peu à peu, quand on faisait les stages, moi j'avais toujours des bouquins, et je me suis rendu compte que l'un et l'autre allaient bien ensemble. Quand j'étais fatigué d'un des domaines, j'avais l'autre. Et ça aussi, c'était d'une aide formidable.
C'est aussi le livre, Thierry, d'un gamin de province, banlieue lyonnaise, d'abord Vénissieux, les Minguettes. Ça sent la province. Moi, je sais de bien de province, donc je sais de quoi je parle. C'est aussi un livre qui évoque ça. D'ailleurs, vous avez des mots même pour un club qu'on aime beaucoup, le club de Givors. Vous avez des mots très affectueux pour une ambiance qu'on retrouve dans un club de province de judo.
Oui, j'avais mon oncle qui était rugbyman, et on a ça en rugby, hein, des des clubs de village formidablement plein d'émulation, plein de, et le club de Saint-Fond qui était mon club, l'emblème c'était un cheval. Mm-hmm. Et on l'appelait le Bourrins Club, le club des bourrins. Bon. Et y avait le judo club du Rhône, il y avait plein de clubs, il y avait le club de Givors qui était un club venu d'une banlieue prolétaire, d'une banlieue ouvrière, et qui était plein de gagneurs formidables. Et je parle d'un homme qui s'appelle Alain Lherbette, qui est toujours là, qui est toujours professeur, qui est resté, qui a des clubs, qui a eu aussi une grande influence sur moi, parce que il était issu de ce club de Givors, et c'était un beau styliste, un beau judoka. Jamel Bourras, le champion olympique, est sorti également de là-bas. C'est, voilà, il y a une histoire provinciale du judo qui est tout à fait formidable. Moi, j'ai énormément de beaux souvenirs avec ces gens-là.
En tout cas, ce sont des pages très, très réussies sur ce club de Givors. Elles sont très tendres et affectueuses. On va faire une pause musicale, Thierry, avec un chanteur originaire de Sacramento, cette fois Californie. Le titre joué dans le jukebox ce soir sur Inter, Everything You Touch Is Gold.
Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and surprising. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everybody that I know can see, and they're asking me, what is going on in your life? Oh, everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Our story is not yet told. Stop mining. I don't have to dig to see. My treasure's standing right in front of me. Everyone that I know is asking me, what is going on?
L'œil du tigre.
Le maître et l'élève, c'est un rapport qui est un des thèmes très importants dans l'œuvre de Kurosawa. La légende du grand judo, c'est l'histoire de l'initiation d'un jeune judoka par celui qui est considéré comme l'inventeur du judo au Japon.
Philippe Collin.
Et le film se termine quand l'élève a atteint la maturité, qui est le stade indispensable dans les arts martiaux. Et donc quand le maître n'a plus rien à faire, puisque l'élève a rejoint le maître.
Sur France Inter.
...1943, la légende du grand judo, premier film d'Akira Kurosawa, film culte pour les cinéphiles judokas, ce groupe social étrange, sous la coupe de Thierry Frémaux, ceinture noire 4e dan et délégué général du Festival de Cannes. Dans ses mémoires de judo boy, il est question de Kurosawa, bien sûr, mais au beau milieu du livre, Thierry Frémaux organise un entracte, un peu comme cette émission d'ailleurs, où il convoque Tarantino, le Californien, en train de terminer son nouveau film dans une bicoque en banlieue de Los Angeles.
I'm Rick Dalton.
And that's my stunt double, Cliff Booth.
Un acteur est amené à faire tout un tas de choses dangereuses.
Anybody order fried sauerkraut?
You're a good friend. I try.
You know who I got living next door to me?
I'm Sharon Tate.
C'est l'actrice la plus en vue à Hollywood, regarde dans le monde entier.
Madame?
Uh-oh. Here comes trouble.
Oh, the shooting!
He kills you.
J'ai une arme de dingue que je vous conseille pas d'avoir aux fesses.
Oh, merde!
Ouais, non, là, c'est trop chaud. Y'a rien à faire contre cette chaleur?
Rick, c'est un lance-flamme.
Ouais.
Alors, Thierry Frémaux, que vient faire Quentin Tarantino au beau milieu de votre livre, qui, je le rappelle, est une sorte de mémoire du judoka que vous avez été, que vous êtes encore d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire, Tarantino, au beau, comme un entracte, d'ailleurs, vous le dites, au beau milieu du livre?
Bah parce que, précisément, ce film-là, il était une fois à Hollywood, que je vois pendant que j'écris le livre, et je m'aperçois que Tarantino fait un peu comme moi, il retourne sur sa propre enfance, sur sa propre histoire. Lui, son histoire, c'est ce Los Angeles de 1969 qui, il se trouve, est aussi l'année où j'ai commencé le judo. Et ça m'a ému beaucoup que Tarantino, qui est cette espèce de cinéaste rock'n'roll californien, enfin, il y a toute une série de qualificatifs qu'on lui accole, prenne le temps de l'introspection et de présenter au monde entier sa ville. Sa ville, c'est l'une des plus célèbres, c'est Los Angeles, mais c'est sa façon de la voir, lui.
C'est son enfance aussi.
Et c'est son enfance. Mm-hmm. Et tout à coup, je me suis dit, mais j'ai raison, si j'ose dire, de parler de mon enfance, parce que lui le fait aussi, et qu'il faut préserver cette enfance. Écrire ce livre, ça a été aussi pour moi une manière de retourner sur ces traces-là, ce qui demande un certain effort de mémoire. Et puis des choses vous viennent, des choses que vous aviez enfouies dans votre mémoire. Et Tarantino, c'est extrêmement émouvant dans ce film-là, au-delà de cette balade de Brad Pitt et de Léo DiCaprio. Il montre des façades de cinéma, il montre les voitures, la musique de l'époque. Et j'ai voulu aussi parler de ça dans ce livre-là, parler des années 70, de notre installation familiale à la ZUP des Minguettes, parce que les Minguettes sont une partie de la ville de Vénissieux qui, à un certain moment, était stigmatisée très injustement, et en même temps, c'est le début de l'histoire des banlieues qui n'est pas résolue puisqu'on n'a jamais tenté de résoudre ces questions-là en France. Et voilà, et du coup, comme on était au cinéma, du coup, c'est d'habitude, il y a un film et il y a un entracte. Là, c'est le film qui fait l'entracte.
Mais c'est très bien. Ça m'a aussi conduit à penser au livre de Vincent Duluc consacré à Cornelia Ender, qui est donc un livre consacré à une nageuse est-allemande, où ce livre est prétexte pour Duluc entre raconter cette histoire, mais aussi sa jeunesse dans les 70s. Et il y a chez Duluc et dans votre livre, Thierry Frémaux, une mélancolie quand même. C'est-à-dire que, comme si l'un et l'autre, et peut-être Tarantino, c'est la même chose, comme si vous aviez peur de perdre quelque chose, comme s'il était question, avec ce travail, de sauver une partie de vous, de la laisser écrite quelque part pour peut-être se protéger d'un oubli, d'un temps qui a disparu.
Oui, en tout cas, moi, je pense que un livre comme celui-là, que d'autres auraient pu écrire. C'est pour ça que j'ai mis en exergue un texte de Paul Auster, qui dit « On n'est jamais que quelqu'un parmi d'autres ». En gros, et Thierry Rey m'a fait l'amitié de me dire, quand il a lu le livre, que c'était sa propre enfance qu'il avait retrouvée ailleurs. Lui, c'était à Lagny. Et oui, c'est pas la peur de perdre sa propre mémoire, mais c'est que ça fait partie. Le judo est un sport populaire, formidable, qui est actuellement, comme le cinéma, dans l'impossibilité d'être pratiqué. Les portes sont fermées. Et comme le cinéma, quand on dit retourner voir les films en salle, quand ça sera possible, je dis inscrivez vos gosses au judo.
Et oui.
Parce que ça fait des enfants formidables. Et voilà, donc c'est pas mélancolique. En tout cas, c'est pas passéiste. C'est une façon de
dire... C'est différent, passéiste et mélancolique.
Oui,
je trouve qu'il y a une petite touche de mélancolie quand même, qui est pas grave. Moi, je trouve ça assez
non,
grave,
non,
la mélancolie.
Oui, oui. Non, c'est pas grave.
Non. Ça vous plaît moyen quand même.
Non, c'est qu'au début...
Il y a un charme à la mélancolie.
Absolument.
Il y a un charme.
Et au début, je veux bien reconnaître que le livre est un peu mélancolique parce que je l'étais.
Mais oui.
Parce que tout à coup, je
repartais
sur ces traces-là.
C'est ce qu'on sent chez vous dans votre écriture.
Oui, absolument. Puis après, au fur et à mesure, je me réapproprie ce sport-là.
Que vous aviez oublié un peu.
Oui, que j'avais oublié, en tout cas que j'avais oublié à quel point il avait été si important pour moi.
Vous notez aussi que, très justement, que le sport, comme le sport-spectacle, et le cinéma sont nés ensemble. Ils sont cousins et le judo et le cinéma sont quasiment nés en même temps. Et vous dites que c'est deux arts, deux activités populaires. Vous êtes au chemin d'ailleurs, au croisement de ces deux chemins, vous là, Thierry Frémaux, que ça a apporté du sens, du rêve, du drame. C'est important pour vous que ces deux passions qui sont les vôtres, finalement, sont issues d'une même époque. Vous êtes l'incarnation de cette réunion.
Oui, disons que c'est tombé sur moi.
Oui.
Comme lorsqu'on parlait tout à l'heure de La Légende du Grand Judo, on n'est pas nombreux du tout à avoir vu ce film. Et moi, je l'ai longtemps cherché quand j'étais jeune cinéphile.
C'était un film mystère.
Qui
était invisible.
Et qui était invisible et qui l'est toujours d'ailleurs un peu. Tous les films de Kurosawa sont restaurés, sauf celui-là. Mais oui, disons que c'est intéressant aussi parce que d'abord il y a des querelles sur l'invention du cinéma. En fait, il n'y a pas de querelles. Il y avait toute une série de gens qui tentaient d'inventer le cinéma, chacun nourrissant l'autre. Et Louis Lumière est arrivé avec son cinématographe. Et le judo, c'est un peu pareil. Il y avait, on ne sait pas exactement d'où vient l'origine. Et un jour, un jeune type, Jigoro Kano, chétif, frêle, qui cherche quand même à fortifier son corps, etc., étudie tout ça pour inventer ce sport. Quand même, on ne sait pas qui a inventé le football, on sait qui a inventé le judo. Le type a inventé un sport.
Complètement.
Et je suis assez fier d'ailleurs dans ce livre-là, et sous le regard très très exigeant de Yves Kado, qui est un historien japonisant et professeur de judo, judoka lui-même, parce que je lui ai demandé de relire pour voir si je disais pas de bêtises, pour explorer la vie de Jigoro Kano, ses voyages incessants, son travail de pédagogue, son travail dans le mouvement olympique. Et là où je suis assez heureux, c'est que dans les années 30, Kano meurt en 38, le monde est en feu. La montée des périls est là, et le Japon n'est pas le plus calme de tous les pays bellicistes de l'époque. Et Jigoro Kano est quelqu'un qui va garder quelque chose de cohérent avec le judo. On revient toujours à l'homme et l'œuvre. Et bien là, il y a quelque chose de cohérent, de rassurant, que celui qui nous a appris tant de belles choses philosophiques sur la pratique du judo l'appliquer à lui-même. Et il est mort en 38, alors qu'il vient de gagner l'obtention des Jeux Olympiques pour Tokyo, et déjà en n'y croyant plus. Évidemment, les Jeux vont être annulés, la guerre arrive. Et déjà, on a même murmuré qu'il aurait pu être assassiné en raison de sa popularité et de ses positions pacifistes, qui ne convenaient pas aux militaires. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une cohérence. Et cette cohérence-là, vous la retrouvez dans les clubs. Je parle à un moment des bons sentiments, de la bienveillance. Dans le sport, en général, les entraîneurs sont là pour les enfants. Il y a des gens formidables qui sont des professeurs, qui ont dévoué leur vie à ça. Il y a des gens qui, à l'époque, le judo, je dis que c'était un sport plutôt de prolétaire. Ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y avait aussi une certaine aristocratie qui s'intéressait à ça à l'origine. Mais en tout cas, ça a changé la vie de plein de gens, et je crois pour le meilleur.
Dans cette confrérie des judokas cinéphiles, il y a des bizarreries, notamment au rayon des étrangetés. Il existe un film très spécial. Nous sommes en 67. C'est un film italo-franco-allemand réalisé par Maurice Labro. Voici un extrait donc de Casse-tête chinois pour le judoka.
Ah, Clyde, je t'avais promis de te donner cette médaille si je gagnais. Prends-la, elle te portera bonheur.
Merci.
Pour un aviateur, un porte-bonheur, ça peut toujours servir.
Vous devez être fier, Mark, d'être sixième dan de kendo.
C'est un peu comme si on m'avait armé chevalier.
Oh, vous voilà un homme redoutable maintenant.
Ah non, pas du tout. J'ai fait la promesse de ne jamais utiliser cette science du combat, même pour supprimer la vie d'un ennemi.
Clyde Adoy, si tous les militaires pensaient comme ça, tous les problèmes internationaux seraient résolus.
Alors, casse-tête chinois pour le judoka, Thierry Rémaud, qu'est-ce que c'est que ce film? D'où ça sort? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
D'abord, c'est un film qui fait partie de ces films de série B, Z,
parce qu'il y a
plus de lettres, qui est tout à fait regardable à part ça. En tout cas, témoin de ces films d'espionnage dont Michel Hazanavicius et Jean Dujardin ont brillamment fait l'exégèse avec leur OSS. C'est aussi tiré d'un livre, d'une série de livres, d'un roman.
D'espionnage.
D'espionnage et d'un héros qui s'appelait le judoka. Parce qu'il y avait un petit air d'exotisme incarné par les arts martiaux, par le Japon, par l'Orient, par tout ça. Et donc là, casse-tête chinois pour le judoka, parce que le film commence au Japon par une belle bataille de kendo, et en fait se passe majoritairement à Hong Kong, puisqu'à l'époque on ne pouvait pas les tourner trop en Chine. Et c'est à la fois pittoresque et très émouvant de voir ça, et y compris le combat
pourquoi
du judo.
Pourquoi émouvant?
Parce que, émouvant comme cinéphile,
oui.
Parce que c'est un monde perdu, c'est un monde enfui, c'est ce cinéma d'exploitation que les gens allaient voir dans les salles de quartier. Et émouvant comme judoka parce que justement d'abord ça, le héros s'appelle le judoka, mm-hmm. Il fait un combat qui arrive à quasiment 5 minutes avant la fin du film, donc oui. Faut vraiment
le film dure 1h44 et le combat arrive à 1h27, je crois.
Oui,
donc, il
ça.
Faut être patient voilà. Quand on aime le judo,
mais le combat est très très beau et je fais un peu la recension, oui. Si c'est pour moi qu'il fera
oui.
De pas mal de films dans lequel même Louis de Funès avait fait du judo dans un film à sketch, Michel Piccoli, enfin, et puis Humphrey Bogart à deux reprises, James Cagney, qui était ceinture noire. Mmh. Et cette balade dans le judo, dans ma propre histoire, mais dans l'histoire du judo, je voulais quand même qu'il y ait quelque chose de la littérature, cette littérature populaire, dont Frédéric Dard était le grand général, et puis ce cinéma-là aussi.
Tout le livre est sous-tendu par des vœux. Des vœux à la Fédération Française de Judo que vous devez prononcer, un discours. Ils vous ont choisi tous les ans, ils choisissent une personnalité qui est judoka pour venir faire les vœux. Vous avez l'habitude de parler en public, Thierry Frémaux, donc c'est pas un stress en général, sauf que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que vous avez le trac de ce discours à faire, comme ce petit garçon qui peut-être venait faire ses exercices devant les maîtres, les katas, la répétition des katas, le tatami monté sur le tapis. On sent que ce discours qui s'est très bien passé au final, mais vous aviez un peu le stress que vous n'aviez pas forcément à Cannes, par exemple.
Non, c'est sûr que j'ai l'habitude de parler à mm-hmm. plein de grands metteurs en scène ou de grands comédiens, et j'ai l'habitude à Cannes de prononcer
des discours
ou quelques mots mm-hmm. que j'improvise d'ailleurs toujours. Mm-hmm. Là, j'ai pas improvisé, mm-hmm. j'ai écrit très
sagement. On sent que vous êtes très appliqué.
Oui, oui. Mm-hmm. Mais parce que à Cannes, si je veux dire, je suis dans mon milieu, et là, je parlais devant tous ces anciens, tous ces judokas.
Mais c'est aussi votre milieu.
Oui, mais justement...
Ce qui est touchant en ce moment, c'est qu'on a le sentiment que l'enfance revient. C'est ça qui est
oui,
très touchant.
Je me réapproprie.
Oui. Vous redevenez gamin un peu, en fait.
Un peu.
Et vous avez un petit peu peur. Ce qui est touchant.
J'ai peur parce que je me dis, est-ce qu'ils vont m'accepter? Est-ce que je fais toujours partie de cette famille-là, quoi?
Et alors, Thierry, ses vœux se passent très bien. Et là, soudain, quelqu'un dit, tiens, si on faisait un peu de judo, les gars. Et là, je ris, alors que c'est pas drôle du tout. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Thierry Frémaux, à ce moment-là?
Parce que Jean-Luc Rouget, qui était le président à ce moment-là,
donc champion du monde,
et qui dirige cette espèce d'entraînement, cette cérémonie, remet la 9e dan à 3 champions et un grand dirigeant, et dit, puisque les champions sont là,
faisons un peu de judo,
un peu de combat. Mmh. Et Patrick Vial, qui est l'un de ces champions, à un moment, Jean-Luc dit à voix haute, quelqu'un pour Patrick Vial, qui veut? Personne n'y allait, qui veut? Et moi, je dis, moi, j'étais en kimono, j'avais ma ceinture noire. Thierry Rey, qui était à mes côtés, m'a raconté après, il me dit, j'ai tenté de te retenir, j'y suis pas arrivé, t'es parti vite. Et je me suis présenté face à Patrick Vial pour faire un randori. Un randori, c'est un exercice libre de démonstration, quoi. Où moi, j'étais supposé chuter pour mettre en valeur, si j'ose dire, j'en avais pas besoin, mais le champion qui était Patrick Vial. Et dès le premier mouvement, en plus auquel je m'attendais, j'ai vu les images, je fais une chute tout à fait belle, mais mon corps était plus du tout habitué à ça, non pas que ça soit violent, mais d'abord j'ai mon âge, j'avais pas fait de judo depuis 25 ans, j'étais froid, j'étais pas échauffé, et j'ouvre le livre sur l'art de la chute et je le ferme sur cette chute parce que au fond cette chute m'a été comme une sorte de catharsis.
C'est très récente, hein. C'était l'année dernière, c'est ça?
Oui, c'était l'année dernière. Mmh. Et mon corps, j'ai souffert pendant 15 jours. Hein, de
vous le racontez la souffrance.
Contracture, oui.
Ça a l'air difficile.
Mmh. Oui, c'était bon. Mmh. C'était bon parce que c'est comme une sorte chez les Indiens d'Amérique, il y a ça, chez les Indiens d'Amazonie, il y a une sorte de franchissement, un moment de l'esprit de sacrifice. Et j'avais le sentiment d'avoir mérité l'honneur qu'on me faisait à me demander un discours en ayant combattu, y compris en ayant quelques stigmates de traces physiques de tout ça.
Vous avez parlé de la chute, évidemment. Tout apogée, Thierry, annonce le déclin. Le judo, c'est l'art de la chute aussi. Mais est-ce que vous avez peur du déclin, Thierry Frémaux?
Non, moi, j'ai pas peur du déclin. Alors, en judo, on apprend ça. L'échange entre les cadets, les aînés, l'idée que tout le monde est remplaçable, l'idée que mon professeur Raymond Redon m'avait dit « Mon travail, c'est de t'enseigner à être très très fort pour qu'un jour tu le sois plus que moi. » Et donc, à notre tour, c'est ce qu'on fait. Et j'adore les vieux maîtres au bord du tapis, qui souvent ne peuvent pas combattre, mais qui regardent et qui sont là encore d'une bienveillance, de quelque chose... Jamel Bourras, dont on parlait tout à l'heure, il est président du PSG Judo. Donc, chacun rend ce que le sport lui a donné, ce que le judo lui a donné. Et moi, je rends ça par un livre. J'ai enseigné longtemps. Je revois, je remercie mes élèves. Et je crois que c'est important, mais c'est important aussi dans le cinéma. J'aime les vieux cinéastes, moi.
Alors, on va terminer avec un vieux sage de cinéma. Vous racontez une histoire extraordinaire. C'est en 91 ou 92. Vous êtes à Lyon, déjà, à l'Institut Lumière. Et vous recevez Donen, Staline Donen, qui vient à Lyon et qui fait un discours sur scène. Il vous dit une phrase extraordinaire. Quelle était cette phrase?
Sa phrase, c'était au moment du centenaire du cinéma. Et c'était, j'ai eu la chance de faire du cinéma à Hollywood, alors que la neige était encore fraîche, j'ai pu y laisser mes empreintes.
C'est très beau. Ça, ça vous perturbe, ça vous travaille, et puis vous vous dites, oui, quand même, effectivement, est-ce que j'ai raté quelque chose, la chute, pas la chute, mais il y a un dîner ensuite, et il vous dit quelque chose d'autre.
Oui, et il me dit, non, j'ai dit ça parce que j'ai pris soudainement conscience, me dit-il, réalisateur immense d'Hollywood, de ce que c'était que d'être à Lyon, ville natale du cinéma, pour célébrer cet art auquel j'ai dévoué mon existence. Et je lui dis, mais c'est vachement beau comme, là, laisser sa trace dans la neige. Vous avez eu cette chance-là de, en effet, d'être à Hollywood quand la neige était encore fraîche. Et il me dit, mais la neige tombe chaque année.
Eh oui. Ça, c'est du Jiro Kano. C'est quasiment, c'est une phrase de judo, en fait.
C'est une phrase de judo, c'est une phrase
de... La neige tombe tous les hivers.
Oui, oui, c'est une phrase de Confucius. Mm-hmm. C'est la vie recommence toujours et on apprend à s'y faire.
En tout cas, merci beaucoup à vous, Thierry Frémaux, d'être venu ce soir. Vous pouvez retrouver Judoka en librairie, ce grand récit, mémoire et réflexion de Thierry Frémaux, L'homme judo, livre disponible aux éditions Stock. Merci beaucoup, Thierry.
Merci.
Le jour, je fais des efforts. Hélas, quand la ville dort. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Le jour je bats les records. Mais quand change le décor. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Le jour je suis matador. Hélas la nuit frappe fort. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. La journée m'est indolore. Quand la nuit me mord. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Oh, je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois.
Cesse, chanson signée Clou. Comme un clou, voilà. On poursuit en musique avec La Victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Minanzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année et ce soir du rugby irlandais. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors de quoi allez-vous nous parler ce soir?
Alors aujourd'hui s'est tenu le match Irlande-France en rugby et ça m'a donné envie de vous raconter l'histoire de l'Iron's Call, ce chant diffusé avant chaque rencontre du 15 du trèfle, c'est-à-dire l'équipe d'Irlande de rugby.
Alors quelle est la spécificité de cette Iron's Call?
Alors si vous me le permettez, oui. Avant de répondre à cette question, je vais répondre à une autre question.
Allez-y.
Quelle est la spécificité du 15 du trèfle? Eh bien figurez-vous Philippe, que cette équipe regroupe à la fois des citoyens de la République d'Irlande, mais aussi des Nord-Irlandais, c'est-à-dire des sujets britanniques. Il s'agit d'une situation unique. Parce qu'en football, par exemple, depuis l'indépendance de l'Irlande en 1922, il existe une sélection irlandaise et une sélection nord-irlandaise.
Et le monde du rugby a refusé cette partition.
Oui, ce sport est resté un facteur d'union, même dans les années 70, au plus fort du conflit qui opposait, en Irlande du Nord, les partisans de la couronne à ceux qui étaient favorables à un rattachement à l'Irlande. Alors écoutez ce témoignage du francophone Jeremy Davidson, un ancien deuxième ligne du 15 du trèfle.
Un club de rugby protestante d'Irlande du Nord, tous les week-ends, allait à Limerick, l'endroit le plus chaud d'Irlande du Sud, pour jouer. Et il n'y avait jamais de problème, parce que les joueurs de rugby, c'est des gentlemen, on lutte dur sur le terrain, mais après, on boit une bière ensemble et on passe une soirée ensemble. Il y avait cet état d'esprit dans le rugby et je trouve ça fabuleux.
Alors, ce témoignage est issu de L'Appel de l'Irlande, un documentaire de l'équipe Explore passionnant, réalisé par Aurélien Delfos et Yvan Ratia-Rivello, et consacré à l'Iron's Call.
Alors justement, venons-y à ce fameux Iron's Call.
Alors avant cela, je me permets de préciser que pendant longtemps, oui, quand le 15 du trèfle jouait à Belfast, le match était précédé par le God Save the Queen, mm-hmm, l'hymne britannique bien connu. Et quand il évoluait à Dublin, la rencontre était introduite avec A Soldier's Song, l'hymne national de la République d'Irlande.
Et alors, comment réagissaient par exemple les joueurs nord-irlandais du 15 du trèfle qui étaient forcés de chanter cet hymne irlandais ?
Ben, dans les années 80, nombre d'entre eux ne le chantaient pas.
Ah.
Parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans cet hymne. Alors à cette époque, la Fédération irlandaise a donc commencé à chercher un air plus rassembleur.
Donc ce fut Iron's Call.
Alors, pas tout à fait. Parce qu'il y a d'abord eu une première tentative lors de la Coupe du Monde 1987 avec The Rose of the Tralee, un chant folklorique censé faire l'unanimité au sein du 15 du trèfle. Mais l'expérience a été de courte durée, vous allez vite comprendre pourquoi.
Voilà, ce n'est pas forcément un hymne très exaltant, disons.
Voilà, c'est pourquoi la fédération a ensuite sollicité un musicien local, Phil Coulter, pour composer un titre entraînant qui pourrait convenir à la fois aux joueurs irlandais et aux joueurs nord-irlandais. C'est ainsi qu'est né en 1995 l'Iron's Call, au rythme martial et aux paroles fédératrices. Cet hymne continue d'être joué avant chaque match du 15 du trèfle et on estime qu'il n'a jamais résonné aussi bien et aussi fort qu'en 2007 avant un match Irlande-Angleterre.
Ça donne des frissons, en effet.
Oui, et il faut expliquer le contexte. Ce jour-là, cette Irlande-Angleterre se disputait à Croke Park, un stade de Dublin tristement célèbre pour avoir été le théâtre en 1920 d'un massacre orchestré par les forces britanniques lors de la guerre d'indépendance irlandaise. Donc, l'hymne que l'on vient d'entendre, repris par 80 000 spectateurs, célébrait sur le moment le lien identitaire qui unit Irlandais et Nord-Irlandais, tout en commémorant un dramatique événement de manière pacifique. Comme quoi sport et musique, quand ils s'unissent, peuvent avoir une dimension sociale et politique très forte.
Merci beaucoup Pierre-Étienne, c'était passionnant. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut. Et voilà, cette 23e émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir par H2M, bien sûr, Henri Marc Mutel. Merci Marco. Assisté ce soir à la technique de Florent Laliani. Merci beaucoup à lui. Merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre. Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scuds et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Twitter avec le compte L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr, bien sûr, pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec le destin d'une nageuse extraordinaire du XXe siècle, sortie des mémoires. Elle s'appelait Gertrude Ederle, triple médaillée olympique en 1924, première femme à avoir traversé la Manche à la nage en 1926. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.